Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
C'est parti. Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes avec Goni Zonon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'ailleurs de quelle profession ?
Je suis consultant en développement durable. Je travaille pour une association qui s'appelle Terre de Vie au Burkina Faso.
Et vous êtes venu à Di lors de cette quinzaine de l'écologie, c'est-à-dire les rencontres de l'écologie au quotidien qui se terminaient hier.
Oui.
Et vous êtes venu présenter un domaine particulier, c'est le climat vu du Sud.
Oui, on a eu une conférence sur le climat vu du Sud. Ça situe un peu le problème du changement climatique et des difficultés que les populations dans des pays assez, on pourrait dire, pauvres subissent. Et donc, on a tenté, en tout cas avec d'autres personnes, de discuter sur cette question avec la présence de pas mal de monde à l'écologie au quotidien.
Vous étiez en binôme avec Denis Dupré.
Et hein? Même plus, il y a eu pas mal de personnes qui ont du coup intervenu sur cette question. Et oui, on pourrait parler de Denis Dupré, qui est de Grenoble, qui est chercheur à l'Académie de Grenoble. Voilà, qui a participé, qui a permis aussi de prendre la dimension de ce problème à l'échelle de notre monde.
Alors, Denis Dupré, on peut préciser, est chercheur dans quelle spécialité ?
Eh bien, d'abord, il a fait dans la finance, je pense, et il se consacre essentiellement, je pense, à une vision écologique, mais aussi à la lutte contre toute forme d'injustice à l'échelle de notre planète. Donc, c'est un éveilleur de conscience, je peux le dire. Et qui apporte toute sa connaissance sur cette question qui touche pas mal de monde.
Vous êtes venu à Di, mais est-ce que vous êtes, comment dire, délégué de cette association ou de cette structure qui s'appelle Terre de Vie ?
Oui.
Donc vous êtes à voyager sur la planète pour informer le public de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest.
Oui. Terre de Vie, c'est une association qui a été créée, qui a démarré ses activités en 2013, parce qu'on était menacé d'accaparement de nos terres. Donc on a monté cette association pour mobiliser les populations, pour appuyer les populations locales au niveau de la commune de Kiriba, à trouver une solution pour empêcher qu'on leur récupère leurs terres cultivables. Donc c'est dans cette perspective que s'est créée en 2015 précisément l'association Terre de Vie qui a su mobiliser et dynamiser au niveau local les populations et qu'aujourd'hui on a pu quand même trouver une solution pour que les populations puissent rester sur leur terre. Désormais nous sommes dans une autre phase, c'est de dynamiser ces populations à transformer leur milieu de façon durable et à pouvoir y vivre convenablement. Voilà, c'est le projet que porte désormais Terre de Vie aux côtés des populations locales. C'est l'agroécologie et tout ce qui touche le domaine de l'environnement, de la santé, de l'éducation et même de la formation.
Vous parliez de Terre de Vie qui a été montée pour contrer l'accaparation des territoires par des multinationales. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être nous développer un peu ce fait ? Qu'est-ce qui se passe exactement alors ?
Ben, ce phénomène ne touche pas que le Burkina Faso. Elle touche. C'est un phénomène qui touche pas mal de pays en Afrique. avec les ressources naturelles qu'on retrouve dans le sous-sol africain, il y a beaucoup de populations qui font face à cette situation, face à des grosses multinationales qui ont beaucoup de moyens et qui dynamisent derrière eux les gouvernements et qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver affrontés à ce genre de multinationales. Nous, c'est une multinationale qui s'appelle Semafo, elle est canadienne. Donc, ils ont découvert de l'or sur ce territoire de 32 000 jeunes paysans. Et ils étaient en train de vouloir trouver, de négocier pour que les populations puissent s'en aller contre quelques sommes, évidemment. Donc, on a anticipé toute collaboration avec eux, en s'auto-conscientisant sur les dangers de laisser nos terres et de partir avec des moyens qui ne pourraient pas nous permettre de survivre longtemps parce qu'on n'est pas des entrepreneurs. Nous, on ne sait pas développer du fric avec du fric. On est des gens de la terre, on travaille le sol. Voilà. Donc, on a pu empêcher qu'ils s'imposent dans notre territoire. Cependant, c'est quelque chose que les populations, ça commence à se parler ici aussi, en Occident, mais je ne pense pas que les gens comprennent ou savent qu'il y a non seulement la récupération des terres, donc, et qui, dans d'autres pays, au Sénégal, au Mali, au Burkina, quelquefois aussi, ça arrive, où des populations sont quelque part chassées de leurs terres. Et que ça participe aussi à cette immigration qu'on essaye de limiter en Europe. Voilà, c'est en plus du changement climatique. Et voilà, c'est un phénomène qui se développe aujourd'hui et qui pose question à notre humanité quand même. Voilà.
Sur ces terres qui sont exploitées par la population, quel type de culture travaillez-vous actuellement ? Et est-ce que cette culture ou cette agriculture permet de vivre en quelque sorte en autarcie ou du moins en autonomie au niveau de l'alimentation ?
Notre volonté aujourd'hui est de s'autosuffire sur ces territoires. Donc on a engagé un travail de fond qui serait un travail où on va travailler qu'à partir de tout ce qui est ressources naturelles, de tout ce qui est semences reproductibles et d'éviter de continuer à nous endetter auprès des semenciers qui ont... C'est ça le problème en fait. On arrive à un point où le paysan, il a été pris en charge, où on lui a donné des semences, des entrants à crédit et que finalement il se retrouve comme ici aussi apparemment. Et d'autres paysans, ils se retrouvent endettés et obligés du coup de produire notamment du coton. Et le coton, ce n'est pas fait pour manger, c'est fait pour être exporté. Du coup, au détriment d'une autosuffisance alimentaire. Notre idée, c'est de transformer nos champs en champs pour vivre, manger. Voilà notre volonté.
Alors... Le coton occupe combien de pourcentage du territoire ?
On peut dire que le coton occupe entre 60 et 70% du territoire parce que quand vous êtes endetté auprès de ces semenciers, ils ne vous laissent pas. Plus vous êtes endetté, plus ils vous demandent de faire de plus grandes surfaces pour pouvoir couvrir votre dette. Et comme le changement climatique n'aide pas et que c'est pas toujours, la récolte n'est pas toujours bonne, donc c'est infini. On ne s'en sort jamais avec ce problème. Donc à un moment donné, il faut dire stop, trouver à communiquer avec les semenciers et la multinationale qui est aussi derrière, qui s'appelle la Sofitex, et de trouver des solutions. Donc actuellement, nous sommes en pourparlers avec eux. Ce n'est pas du tout gagné, mais je pense que si on arrive à dynamiser autrement les paysans, on va trouver une solution, sans aucun doute.
Sachant que le coton est très demandeur d'eau, hein, je crois que on dépasse les 20 000 litres par kilo de coton. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas au détriment de la population l'eau, ça devient un gros enjeu aussi.
Oui. Le coton est demandeur d'eau, Mais vous saviez que ces multinationales-là ont quand même adapté leurs semences. Donc, on a affaire à des semences hybrides ou des OGM tout court. Avant, on cultivait, il y a 10 ans, on faisait le coton BT, qui aujourd'hui n'est plus bien accepté sur le marché parce qu'il paraît-il que les fibres ne sont pas de bonne qualité. Donc, on est passé à un coton dit coton conventionné. Ce n'est pas du BT, c'est un coton hybride que le paysan est obligé aujourd'hui de pomper, asperger avec tous les pesticides, les engrais. Et ça crée pas mal de problèmes déjà, de santé, de dépigmentation, de vertige, des animaux qui meurent parce qu'ils ont été boire après, ou en tout cas, ils ont brouté de l'herbe à côté des champs de coton, etc. On a pas mal de difficultés avec ce nouveau coton qu'on nous propose. Voilà. Et tout ça quand même participe à faire prendre conscience aux populations que nous ne pouvions plus continuer à travailler au détriment de notre santé, au détriment de notre territoire. Et si en plus ça pollue notre territoire, c'est juste plus possible de continuer comme ça. Mais voilà, on a, ce n'est pas toujours facile de trancher, de pouvoir être en responsabilité avec ça.
Tout à l'heure, vous parliez d'un groupe canadien hein, oui. qui amenait ce mode d'exploitation. Et il existe aussi des entreprises françaises, par exemple, qui ont la main mise sur les terres, qui voudraient la prendre.
Ben, c'est très, très difficile aujourd'hui d'associer une multinationale à un état SEMAFO qui est dans l'or, dans l'extraction de l'or, elle est canadienne. Mais vous allez trouver que au fond, le directeur commercial peut être chinois, français. C'est très, très complexe. Donc, effectivement, c'est bon. Pour SEMAFO, on sait que SEMAFO, elle est canadienne. Mais pour la Sofitec, c'est en plus une multinationale, celle qui nous vend des semences hybrides. C'est une multinationale, mais on pourrait dire même que c'est une entreprise locale, puisqu'elle appartient pour, je pense, entre 10 et 15% à l'État burkinabé. Et les autres parts de cette entreprise appartient à des actionnaires qui peuvent bien être des Français, etc. Donc, c'est très, très complexe. On ne peut pas... Mais ce qui est sûr, la France joue un grand rôle aussi dans cette dimension agricole au niveau des pays africains. Et que si nous, on a vos blés sur nos marchés qui coûtent moins cher que la production locale, ce n'est pas fait pour nous aider, c'est sûr. Mais c'est très complexe comme question. C'est pas évident à expliquer légèrement comme ça.
En contrepartie de ce mode d'exploitation qui saccage hein, en même temps et qui peut empoisonner les terres puisque on traite avec des pesticides, insecticides et je ne sais quoi, ça condamne tout type d'exploitation en outre que le coton.
Ben oui, effectivement, ça a des conséquences sur toutes les vies au niveau. Nous, on a vu. Hein, moi, je ne suis pas très âgé, mais je voyais des familles d'éléphants dans la brousse. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éléphants. On a perdu les hippopotames, les oiseaux se font rares, la faune sauvage. Donc oui, ça a des conséquences directes et visibles, ça c'est sûr.
Vous voulez dire que ces animaux ont été empoisonnés par ces produits ou alors c'est la chasse ?
Des effets conjugués de la déforestation des hommes... qui veulent faire de plus en plus de champs avec l'engrais parce qu'ils disent qu'il faut toujours plus produire. Donc, tous ces effets conjugués nous ont amenés à une catastrophe évidente. Chez nous, on n'est plus à dire attention, c'est qu'on est dedans. On est dans la vraie difficulté. Qu'on a détruit la forêt, que les terres sont trop chargées de pesticides, d'herbicides, que... Voilà, le problème, il est là, en fait. On essaye juste de vouloir reparer, de ne plus continuer cette façon qu'on a eue inconsciente de faire, de trouver à réparer ce que nous avons fait. Ça, c'est, voilà.
Un petit peu de pédagogie, parler du Burkina Faso, qui a à peu près une population de combien d'habitants?
Ben, on varie maintenant, je pense qu'entre 17 et 18 millions d'habitants sur 274 km². C'est un beau pays où la majorité des populations vivent en milieu rural, c'est pour ça que c'est assez calme. Je pense que si l'État burkinabé ne prend pas conscience de cette chance qu'elle a d'avoir la majorité de sa population en milieu rural qui arrive à être autonome avec la nature et qu'elle participe à dérégler ça au plus vite, c'est pour venir créer des bidonvilles au bord des villes. Et vous connaissez, dans tous les pays où on n'a pas fait attention à l'environnement, on n'a pas fait attention à la vie en milieu rural, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres, eh bien, les problèmes se posent vite parce que nous ne pouvions pas tous vivre en ville.
Et puis encore moins à la campagne, hein, oui. Si les territoires sont pris par la culture de coton. C'est un gros facteur d'emploi d'ailleurs, le coton, actuellement.
Non, on ne peut pas dire que c'est un facteur d'emploi. On est tous, 88% de la population vit de l'agriculture. Donc effectivement, l'agriculture emploie beaucoup de gens. Mais nos bras sont utilisés au service d'autres besoins qui ne servent pas notre intérêt. C'est ça le vrai problème qui se pose. Parce que quand tu fais 16 hectares de coton, et un hectare de mil pour te nourrir, parce qu'on t'impose de faire ces 16 hectares parce que tu dois de l'argent à la multinationale, vous comprenez bien qu'il y a un déséquilibre et un vrai problème à régler à ce niveau. Donc, voilà, c'est vraiment là la situation. C'est des gros bosseurs, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas peur de travailler, mais c'est des gens qui travaillent pour l'intérêt de big boss, des actionnaires, quoi.
Le peu de territoire accessible à la population et qui permet ensuite de s'auto-alimenter, si c'est possible, ça laisse combien de superficie? On peut le signaler, ça?
Ben, ça, c'est comme si vous aviez, si quelqu'un avait 20 hectares par famille pour la culture, si vous prenez 16 hectares pour faire le coton, il vous reste 4 hectares. Donc, vous voyez qu'avec ça, on ne s'en sort pas. Ça, c'est le premier point. Et en plus de ça, je vous ai signalé qu'avec le changement climatique, la variation des saisons pluvieuses qui ne vont pas au bout, donc on se retrouve avec des récoltes insuffisantes. Donc, non, on ne s'en sort pas. Ça, c'est sûr. Et que... il faut vraiment qu'on change le mode de production et qu'on revienne à une agriculture vivrière, comme nous, on essaye en tout cas de développer dans notre commune actuellement.
Vous parliez de l'eau, hein, qui tend à baisser aussi. Hein. Et c'est dû à quoi? Mis à part le changement climatique, on peut peut-être mettre ça sur ce compte-là, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des constructions en aval qui détournent l'eau, par exemple?
Il y a ça, pas chez nous, mais je pense par exemple que vers Banfora, c'est les cascades, je sais que c'est un coin touristique où il y a actuellement des gens d'Israël qui ont créé des champs de canne à sucre. Donc, et ils tirent l'eau des cascades et que ça pose un peu de problème là-bas, dans le Komoé. Mais chez nous, c'est principalement dû à la détériorisation de l'environnement. Il n'y a pas d'arbres, on a saccagé, voilà, parce que les populations n'ont pas vite pris conscience de la place de l'arbre dans l'équilibre même de notre vie. Donc, voilà. Donc ça pose problème et que du coup l'érosion. Et quand il y a de grosses pluies, ça emporte la boue dans les lacs. Et à un moment donné, les lacs sont saturés de boue. Et que voilà, c'est plein, il n'y a plus de trous pour faire réservoir. Et on se retrouve en pénurie d'eau. tout simplement. Donc ça, c'est le volet principal du manque d'eau dans les territoires en milieu rural. Voilà.
Donc c'est une mauvaise gestion du territoire par l'État, par exemple, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y avait de la prévention à prévoir pour les boues, de manière à les détourner ou à les contenir autrement?
Oui, ce n'est pas que l'État, c'est aussi de la responsabilité des populations au niveau local et qui ont été entraînées de façon... Voilà, il y a la responsabilité de l'État de dicter une architecture agricole qui ne convient pas aux populations et qui les force à détruire de plus en plus l'environnement pour produire de plus en plus de coton que de produire pour se nourrir. Et en plus de ça, ça détruit l'environnement. Et que par conséquent, quand vous n'aviez plus un environnement en équilibre, eh ben c'est tout qui se dégrade, y compris le manque d'eau.
Alors, cette perte de conscience de la population, de ces terres, elle est due à quoi? À un manque de transmission, de génération? Ou alors, est-ce qu'il y a eu une espèce de, je dirais, un socle du pouvoir pour établir une éducation commune à tous, en omettant les traditions ou les choses qui faisaient que les gens pouvaient vivre sur leurs terres?
Oui, il y a eu là... À un moment donné, il y avait les anciens de nos territoires travaillaient pour se nourrir. C'est ça. On va au champ, on récolte, c'est pour se nourrir. Après, nous avions eu les techniciens agricoles qui sont arrivés. Là, on a modelé le paysan comme si c'était un homme d'affaires. Il fallait produire plus. Avec cette idée de produire plus tu produis, plus, voilà, tu es mieux. Bon, et là, quand tu veux produire plus, il faut ramener d'autres choses. L'engrais, l'herbicide, les pesticides, etc., etc. Donc, on a entraîné cette jeune génération à un emploi des terres qui n'était pas en équilibre avec les besoins, qui n'était pas en équilibre avec le bon sens. Et aujourd'hui, voici, on est dans les conséquences. Et eux, une fois que les champs ne produisent plus, on a les multinationales derrière qui disent sous la terre, eh ben, il y a de l'or dégagé et nous, on va enlever l'or. Donc, c'est un boucle. Et c'est quand le paysan n'arrive plus à se nourrir de ses terres, ben, écoute, il est plus facile pour lui de prendre 10 à 12 000 euros pour laisser ses terres. Mais, sauf que, ben, ils ne savent pas vivre, ou en tout cas multiplier cette somme pour en vivre indéfiniment, comme les terres peuvent leur permettre cela avant. Voilà, donc on se retrouve dans une situation assez complexe où ben, cette responsabilité incombe aussi bien à l'État qui ne prend pas la mesure des conséquences d'une telle vision agricole, mais aussi, même si les paysans sont pris en étau, ben, ils doivent à un moment donné, comme nous sommes en train de le faire, ben, dire stop, on ne s'en sort pas, on travaille comme des dingues, on n'en vit pas. Et en plus de ça, on est toujours endetté. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'on est assez motivé. Vous savez, quand tout le monde est dans le souci, il y a une force dans la solidarité qui s'impose. Et nous, on en profite actuellement pour faire changer les choses chez nous.
Cette démarche de contrecarrer cet état de fait, comment les prennent les multinationales? Est-ce qu'elles se sentent visées? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit entre la population et ces multinationales pour essayer de changer les choses?
Oui, il est très nécessaire toujours de poser la communication entre les multinationales, entre tous les acteurs qui ont une autre vision de l'emploi de l'homme et de la terre. Voilà. Donc, avant, évidemment, au début de notre mouvement au niveau de la commune, eh ben, on voulait aller avec la force, c'est-à-dire on voulait faire des choses assez violentes parce qu'on était fatigué, parce qu'on n'en pouvait plus. Et à un moment donné aussi, on a des contacts, des conseils de personnes. Je pense notamment à Anne Tesson, qui est une très bonne amie, qui travaille à Écologie au quotidien, qui m'a orienté sur la communication bienveillante. Et ça, vous arrivez avec une attitude en face de l'autre, qui est différente, qui a une autre vision de la situation, qui a d'autres besoins, d'autres valeurs. Et on arrive à poser l'échange, au moins en tant qu'individu. Quand je vais voir Jonas Bayoulou de la Sofitex ou de Safito, ben ce sont eux qui gèrent aussi bien les herbicides, le coton, etc. Ben je ne le regarde pas comme un méchant. J'essaie de parler à sa raison. Et effectivement, au départ, on était en conflit. Nous avions eu plein de problèmes avec la gendarmerie. On a été arrêtés. Mais finalement, on est arrivé à poser l'échange entre nous dans le respect des uns et des autres. Et je peux dire que sincèrement, quand on pose le dialogue avec respect, il y a comme une force des choses qui entraîne vers le positif. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Ils sont plutôt... Voilà, ils sont en retrait actuellement. Et des fois, même, ils sont en accord et ils nous appuient. Voilà.
Il existe des ONG qui vous aident autour de Terre de Vie, c'est-à-dire des organisations internationales qui œuvrent pour une meilleure agriculture.
Oui.
Ou alors vous êtes parti tout seul dans votre coin à créer Terre de Lien, Terre de Vie, pardon.
Non, on n'est pas parti tout seul dans notre coin. D'abord, le problème de l'accaparement des terres nous mettait la pression d'organiser quelque chose. Et là, Écologie au quotidien a été le premier partenaire de soutien. Après, nous avons eu une ONG hollandaise qui s'appelle la SNV, qui nous a beaucoup aidé aussi. Mais à un moment donné, on a arrêté le partenariat parce qu'elle voulait nous faire produire des semences hybrides. Et nous, on ne voulait pas collaborer là-dedans. On a eu une éthique assez serrée. Et toutes les grosses ONG aujourd'hui, que ce soit les Oxfam et autres, au nom de la faim, au nom même d'une certaine sécurité alimentaire, d'urgence, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Donc, ils distribuent des semences hybrides pour toujours adapter l'agriculture au changement climatique. Donc, ce sont des solutions qui ne conviennent pas à notre éthique. Pour nous, il n'est pas question de dire aux paysans, écoutez, maintenant que vous avez détruit la forêt, on va vous proposer des semences qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Nous, on dit qu'il faut réparer ce qu'on a gâté. Il faut, à un moment donné, reboiser massivement notre territoire, essayer de rééquilibrer notre environnement en phase avec nous-mêmes et qu'après, peut-être, alors on verra comment on peut arriver à produire avec cette prise de conscience. Mais on ne continue pas à dire, on ne peut rien faire, il faut juste prendre des semences qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et continuer à être inconscient face aux dangers que nous animons sur notre territoire.
Terre de Vie a établi certainement une charte qui permet de, ou au moins un cahier des charges de ce qui est à produire et comment remédier aussi les dégâts.
Oui, mais nous, on est dans notre charte, c'est la polyculture. Il faut associer toutes les semences et qu'elles soient reproductibles. Et qu'on travaille juste avec les ressources naturelles. On fabrique nous-mêmes notre compost biodégradable avec des déchets des animaux ou de la forêt, etc., etc. Donc, on est dans une approche assez à l'ancienne, comme nos parents ont toujours fait. Ce n'est pas toujours évident, mais en 6 ans maintenant, on commence à avoir un peu de résultats. Voilà, donc c'est motivant parce que les populations aussi ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à s'endetter et ne pas pouvoir être autonomes dans leur vie.
Et vous avez un support du pouvoir à Terre de Vie pour opérer une certaine éducation populaire, c'est-à-dire de mettre la population au fait de ce que vous proposez et comment?
Oui, on a du support. C'est pourquoi je vous dis qu'il est très important d'être dans l'échange même avec ceux qui sont à la fois le frein, mais qui sont indispensables à atteindre pour que les choses aillent de l'avant. Donc oui, nous avons organisé du 24 au 26 novembre passé une fête de la biodiversité en milieu rural à Tchériba. Nous avons invité le ministre de l'Agriculture qui est quand même venu. Donc ça marque aussi une sympathie de notre démarche, de notre originalité. Mais c'est surtout que cela nous interpelle, nous, associations, qu'en fait, même le ministre me l'a dit, ils ne peuvent pas jouer les récalcitrants face aux semenciers, face aux grosses multinationales, ou en tout cas voilà, parce que l'État burkinabé n'a même pas les moyens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, ceux qui vous donnent les moyens vous dictent comment utiliser leurs moyens. Donc, et ils sont plutôt contents que nous, on puisse, dans une autre façon, agir et proposer d'autres alternatives. Ils ne sont pas contre cela. Mais c'est quand on sort trop la tête pour dire « arrêtez ça, faites pas ci, machin », que tout de suite, on arrive avec des menaces. Mais voilà, si on est délicat et qu'on travaille vraiment dans la brousse avec les populations, eh bien, on n'a même plus besoin de faire du boucan. Si ils arrivent avec leurs semences et que les paysans disent « nous n'en voulons pas », il est où le problème? On n'a plus besoin de voilà. C'est ce que nous, on est arrivé à faire. Nous, on dit, c'est à la base, travailler avec les populations, qu'ils prennent conscience et qu'ils se redéfinissent en phase avec leur vie et leurs besoins.
On va peut-être aborder un peu plus ce que vous avez présenté à la quinzaine de l'écologie, écologie au quotidien. Avec Denis Dupré, vous avez articulé vos compétences pour présenter une conférence à deux.
Oui, à deux, mais il y a eu, comme je vous ai dit, d'autres aussi intervenants. Il y a eu un film sur les conséquences du changement climatique dans les pays du Sud, avec tout ce que cela comporte pour des gens déjà en état de vulnérabilité. Et après cela, du coup, la question, c'est le débat s'est posé, où nous avons essayé de parler de notre expérience, chacun. Moi, notamment du Burkina Faso et de mon travail sur le territoire de la commune de Tchériba, de ce que le changement climatique a porté comme marque physique directe sur ces hommes. Je vous ai parlé tout à l'heure que maintenant, nous, on ne voit plus d'éléphants. C'est parti. On ne voit plus les hippopotames. C'est parti. Les crocodiles sont partis. Les singes sont partis. Les vers de terre, on ne les connaît plus. Et qu'avant tout ça, c'était une faune incroyable que les enfants connaissaient. Maintenant, pour le petit Burkinabé, en tout cas de mon territoire, si ce n'est pas dans les livres, il ne saura pas ce que c'est qu'un ver de terre, il ne saura plus ce que c'est qu'un éléphant, etc., etc. Donc ça, c'est du concret. Et donc, oui, et en plus de cela, le manque d'eau, les mauvaises récoltes, et tout ça participe aussi au fait des réfugiés climatiques. Donc, où derrière aussi, il faut associer l'accaparement des terres. Donc, c'est des facteurs où nous avons pris conscience que peut-être que l'Occidental, dans sa vie ici, ne se rend pas compte. On a mis en lien sa façon de vivre, de consommer, d'être mobile et les répercussions que cela peut avoir sur la vie au-delà de sa vue, comment on peut dire, de son quotidien ici. Voilà. Et vous avez des gens qui ont intervenu dans le film qui disent « mais c'est quand même les Occidentaux qui polluent beaucoup et c'est nous qui récoltons tout de suite les conséquences et qu'eux, ils s'en foutent ». Bon, vous voyez tout de suite que ça pose problème. Si on n'arrive pas à mettre en lien de façon raisonnée, de façon juste, cette réalité d'ici, des gens qui consomment sans réfléchir, des gens qui créent de la pollution, etc., etc., et les conséquences que cela implique pour les gens qui vivent dans les pays pauvres, à un moment donné, on va se retrouver dans les mêmes connexions négatives comme il y a eu la colonisation et ses conséquences que nous partageons aujourd'hui encore.
Je reviens sur une question de tout à l'heure. Je parlais des organisations, vous m'avez parlé de l'écologie au quotidien, mais est-ce qu'il existe d'autres structures ou associations qui vous aident à établir ce nouveau mode d'exploitation?
Dernièrement, nous avons eu une association qui s'appelle Terre Verte, qui travaille aussi à Waïkia, au Burkina Faso. Et nous avons Peuple Solidaire, c'est Action Aide maintenant. La directrice est venue même au village, qui nous ont beaucoup appuyés aussi et encouragés. Il y en a plein, oui, qui nous soutiennent.
Je parle au niveau international.
Au niveau international, Action Aide, Peuple Solidaire, oui, ils nous ont soutenus. Et voilà, ils nous ont encouragés. La présidente Raymond Dublois, qui est malheureusement décédée brutalement il y a un an à peu près, elle a été vraiment d'un support incroyable, cette dame. Oui, oui. Quasiment à nous appeler aussi, à nous envoyer des mails pour nous dire qu'il faut continuer. On a un partenariat en vue aussi avec une association française qui va au Burkina depuis longtemps, qui s'appelle Ça va aller. Voilà, on est en train d'établir actuellement un réseau de connexion entre toutes ces bonnes volontés qui pourront permettre que les choses sortent plus grandement de la brousse.
Le rêve de tout ça, ça serait quoi? De cultiver le maraîchage aussi?
Oui. Des productions de contre-saison, c'est d'arriver à créer et de restaurer un peu notre environnement chez nous, de pouvoir faire une agriculture vivrière qui profite à nos besoins et espérer que l'écosystème s'en remette petit à petit et qu'on puisse vivre en autonomie, consommer local, produire local, vendre local et vivre local. Voilà.
J'essaie de situer. On peut décrire comment un paysage du Burkina Faso? C'était avant un endroit très vert avec des arbres et l'Occident étant passé, qu'est-ce qu'il en reste?
C'est l'évolution. Je peux dire que avant, nous, on était petits. À 10 ans, mon père il me disait qu'il y avait des lions ici. Nous, on n'a pas connu les lions. Donc, petit à petit, l'évolution de l'agriculture aussi au Burkina a fait que l'environnement a beaucoup évolué et changé. Comme ici aussi, je pense que l'homme, dans sa production, n'a pas du tout pris en compte la nécessité de produire en équilibre avec ce qui fait qu'on peut vivre durablement de notre production. C'est produire plus tout de suite et après on verra. Bon. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'après. Ils ont beaucoup produit. À un moment donné, le coton, ils avaient pas mal de tonnage. Aujourd'hui, il faut cultiver 4 hectares pour avoir la récolte d'un hectare. Ça, ce sont les conséquences directes de l'emploi de tous ces pesticides, herbicides sans limite dans nos champs. Donc oui, c'est principalement ça. La culture du coton a participé à dégrader durablement notre territoire.
Alors, je suppose que vous avez expérimenté des reprises de territoires qui étaient voués au coton et essayé de les ramener à une culture beaucoup plus naturelle. Mmh. Ça se fait actuellement?
Oui, c'est notre mission actuellement, c'est de mettre des terres en jachère, de travailler des terres avec du compost naturel, du biodégradable, des déchets d'animaux. Et avec cette approche, la première année, c'est difficile. La deuxième année et la troisième année, on sent littéralement une belle portée des plantes dans nos champs. Ça, c'est sûr, oui. Et ça motive parce que ça ne coûte pas. Tu ne prends pas, tu ne payes pas d'engrais, tu prends les déchets de l'environnement ou de tes animaux, tu les mélanges et tu vas apporter ça à ton champ pour la nourrir. Et finalement, tu as un bon rendement à la fin. Voilà. Donc, c'est revenir à une production raisonnée et responsable. Et ça, c'est très difficile pour des jeunes. De savoir se raisonner dans la production. Il ne faut pas demander plus que la terre ne peut te donner avec de l'engrais, des trucs comme ça, pour s'acheter le smartphone, pour s'acheter une moto. Voilà. Donc, il faut arriver aussi à conscientiser le petit paysan de la brousse qu'il ne faut pas trop se miser dans une consommation qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un danger.
Voilà. Là, on parlait de récupérer des terres pour les rendre de nouveau viables à l'agriculture. Face à cette initiative, les entreprises multinationales, comment réagissent-elles ?
Les multinationales, je pense qu'actuellement, en tout cas, on est tranquille. On n'a pas trop de problèmes parce que peut-être on n'a pas encore fait de vrais boucans, on n'a pas encore... puis s'imposer comme un territoire pilote, école, qui pourrait mobiliser les autres à nous suivre parce qu'on n'a pas encore, comment dire, voilà, les reins solides dans notre dynamisme. On essaye de pouvoir avoir les moyens petit à petit pour être un territoire école pilote pour les autres territoires voisins de notre commune, mais plus encore pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, à partir du moment où nous allons pouvoir nous imposer comme ça sur la scène nationale, évidemment, on va rencontrer des problèmes. Mais là, nous aussi, on sera déjà assis dans notre expérience, fort et mieux organisé. Donc, pour le moment, ils nous regardent comme si on allait s'épuiser, parce que ça demande beaucoup de ressources économiques et que les ressources économiques, c'est pas ce que les associations comme nous on est gagnent facilement. Mais on a la chance quand même d'avoir aussi Olivier de Schutter, l'ancien reporter de la lutte contre la faim de l'ONU, qui nous suit et qui parraine l'association. Donc on verra bien comment tout ça s'arrime et avance dans le temps. Mais pour le moment, en tout cas, on est tranquille.
Et puis, votre travail, on peut peut-être aussi le voir sur Internet.
Oui, on est en train de monter un site actuellement, Terre de Vie. On n'a pas fini le site encore, mais on a Facebook. Bon, c'est déjà un petit moyen de communication.
Terre de Vie, toujours.
Voilà, Terre de Vie, toujours. Et où on a quelques images. C'est vrai que depuis la brousse où nous sommes, ce n'est pas facile d'animer les plateformes de communication sur Internet. Mais là, nous sommes en train de trouver des personnes qui vont continuer à communiquer sur nos actions au niveau du web. Voilà, c'est important pour nous, ça. On a compris ça et que là, on met tout notre effort pour pouvoir, dans les jours qui viennent, mettre en place un support numérique sur la question.
On n'a pas parlé de votre formation. Vous êtes destiné à quoi, dès les études ?
C'est assez... Moi, j'ai fait un peu le séminaire pour devenir prêtre. Entre-temps, et après, je n'ai pas été au bout. Donc, du coup, je me suis orienté sur des études sur le développement durable, au service des techniques, au service du développement durable. Voilà.
Ça, ce sont des études que vous avez pratiquées au Burkina Faso ?
Déjà, la culture, je la connais bien, parce que tout petit, on va au champ avec mon papa, qui a toujours été quelqu'un qui n'a jamais aimé l'emploi des engrais et des pesticides dans notre champ déjà. Dès l'âge de 6 ans, chacun apporte ce qu'il peut à la production familiale. Donc on est paysan d'office. Et après, on part à l'école aussi. Donc on apprend des choses sur la science, les animaux, l'environnement, la forêt, etc., etc. Et ça apporte un plus à notre rapport à l'environnement, évidemment. Et je pense que ma plus grande formation, c'est le travail du champ familial, voilà, qui te donne la matière pratique et l'école vient renforcer cette prise de conscience dans cette expérience. Voilà.
Je voulais savoir, vous tournez encore sur d'autres dates en France dans les prochains temps ?
Non, dans les prochains temps, le retour se peaufine pour le Burkina et peut-être... Je reviendrai
l'année prochaine.
Voilà, ça c'est sûr.
Goni Zonon, merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir invité.
Voilà, et donc je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Interview. 1 Terre.
Okay, the bird.